cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 4 mars 1992.
Première pénitence de carême. Le cours de métaphysique le matin. C'est comme ça qu'on commence le carême. C'est bien du reste, puisque l'ascèse, c'est le travail. Il ne faut jamais l'oublier. Une ascèse pour elle-même, c'est pas très joyeux. La véritable ascèse, c'est le silence et le travail. Alors, le silence, toute la journée, c'est la trame de nos journées. Et le travail, pour nous, c'est le travail intellectuel. Et c'est la grande ascèse. C'est pour ça qu'on doit s'y donner très à fond. Surtout quand ça se fait dans l'obscurité et qu'on ne voit pas très bien où ça va, la finalité. Je crois que c'est important pour nous. Vous voyez, le temps du carême doit être un temps où le travail prend une signification toute spéciale. Non recuso laborem. Et ça doit être un peu ce temps du carême où le travail intellectuel, pour nous, le travail manuel aussi, pour certains et pour tous également, mais le travail intellectuel, on doit se remettre à ce travail intellectuel avec une très grande vigueur, une très grande ardeur. Là, on est au sommet de la difficulté. C'est vrai, je crois que la découverte de l'être en acte et de l'être en puissance représente pour notre intelligence humaine la plus grande difficulté. C'est l'Himalaya, c'est pas le Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est la substance. Tandis que l'Himalaya, c'est vraiment l'être en acte. Et des quantités s'arrêtent en disant « Oh, c'est suffisant, c'est impossible. » Alors, ce qui est très curieux, ceux de première année peuvent saisir quelquefois beaucoup mieux ce que c'est que l'être en acte que ceux de troisième année. Parce que c'est une question de pénétration de l'intelligence, d'éveil de l'intelligence, en se servant de l'induction. Essayer de comprendre quelle est cette induction qui nous conduit là, tous les grands exemples. Et spécialement cet exemple qui est très radical, le passage de celui qui dort à celui qui est éveillé. C'est celui qui est fondamental, celui-là. Qui commande un peu tous les autres, auquel on revient tout le temps. Parce que c'est l'expérience de notre vie quotidienne. Alors nous avons essayé de découvrir cette grande induction. Faites-la vous-même. Induction synthétique, analogique. C'est comme ça qu'Aristote la qualifie. Donc, une induction qui réclame de rassembler toute une série d'expériences et de faire que toutes ces expériences sont toutes unies dans leur diversité en saisissant leur unité. Pour découvrir ce dépassement, ou si vous voulez, ce qui est en acte. Et les laisser de côté ce qui est en puissance. Alors, pour mieux saisir cette distinction de l'être en acte et de l'être en puissance, on a tout de suite vu les diverses modalités de l'être en acte et de l'être en puissance. Ces diverses modalités sont pour nous plus faciles à saisir que ce qui commande toutes ces modalités, qui est l'être en acte et l'être en puissance. Oui, c'est tellement subtil pour notre intelligence. Elle est faite pour ça. Mon intelligence est faite pour saisir l'être en acte. C'est donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'il y a de plus naturel pour nous. Saisir l'être en acte, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Puisque notre intelligence est faite pour ça. Mais en découvrant l'être en acte, je me finalise intellectuellement. Et tant que je n'ai pas saisi, je reste en puissance. Donc, je suis un peu errant. Et ce n'est que quand je saisis l'être en acte que je ne suis plus errant, que je découvre ce pourquoi mon intelligence est faite. Elle est faite pour saisir l'être en acte. Et à partir de l'être en acte, évidemment, elle se posera la grande question. Est-ce que l'homme et l'être en acte. Mais il faut bien comprendre, je saisis l'être en acte à partir de moi-même, mais je saisis tout de suite l'inadéquation de l'être en acte et de moi-même. Parce que en moi, ce que je vois avant tout, c'est la puissance. Ce serait ça qui fait que la plupart du temps, je me décourage. Parce que je saisis, en premier lieu, génétiquement, l'être en puissance. Le temps de carême, c'est un temps de conversion. Donc on saisit en premier lieu l'être en puissance. C'est un devenir le carême. Devenir dans l'ordre de la conversion spirituelle. Or, dans le devenir, il y a un primat de la puissance sur l'acte. C'est pour ça que c'est pas si commode que ça de se convertir. Pour accepter de voir toute la potentialité qui est en nous. Et de dépasser cette potentialité pour saisir l'être en acte, l'au-delà, le dépassement, ce qui finalise. L'être en puissance ne finalise pas. L'être en puissance demeure quelque chose de massif, d'inintelligible. Ça fait comprendre toutes les obscurités qui sont en métaphysique et qui sont là tout le temps devant nous et qui nous empêchent d'aller jusqu'au bout. Quand on est en face de l'être en puissance, on a envie de s'arrêter. Chaque fois que vous avez envie de vous arrêter, c'est parce que vous êtes en face de l'être en puissance sous des aspects différents. Et c'est ça le fardeau qu'on porte. Nous sommes des êtres en puissance. Et ce qui explique combien on a constamment la tentation de s'arrêter. C'est suffisant. Dès que vous avez saisi l'être en acte, vous voyez que toute cette potentialité, elle est dépassée par quelque chose qui n'est pas Dieu, qui est en moi. Je porte en moi l'être en acte. C'est sûr, c'est pour ça que je le découvre. C'est pas une idéologie, hein. c'est pas du tout quelque chose que je fabrique au-dedans de moi-même. Si c'était une idéologie, ce serait pas l'être en acte. Pour Descartes, l'être en acte, c'est l'idée. Et quand vous lisez tel ou tel philosophe, posez-vous la question, quel est l'être en acte pour lui? C'est la meilleure recension qu'on peut faire d'un philosophe. Dire l'être en acte pour lui, c'est l'idée. Alors, tout de suite, c'est un idéologue. À partir de l'idée, il voudra tout expliquer. Or, on n'explique rien par l'idée. Vous expliquez par l'idée votre manière de faire la synthèse. Mais c'est une synthèse purement subjective, qui n'a aucun intérêt pour le voisin. Il lui donne son idée, il dit très bien, débrouille-toi, on verra bien le résultat. S'il y a une fécondité ou s'il n'y a pas de fécondité, s'il y a une certaine fécondité, on dira ton idée est bonne. Mais comment on juge une idée bonne et mauvaise? En fonction du résultat. Le résultat me montre si mon idée a quelque chose de juste, si mon idée est quelque chose de vrai. Si je n'ai aucun résultat, je dirais cette idée, elle vaut rien. Tandis que l'être en acte est ce qui se juge d'après le résultat. Vous savez bien que constamment, aujourd'hui, on dit c'est bon puisqu'il y a un résultat. Fécondation artificielle, c'est très bien, ça réussit. Puisque ça réussit, c'est bien. Qu'est-ce que vous jugez à ce moment-là? L'idée. Ne vous jugez pas si c'est vrai ou pas vrai, si c'est bon ou pas bon, pas du tout. Vous voyez, c'est là où, si on essaie de comprendre un tout petit peu cette métaphysique de l'être en acte et de l'être en puissance, c'est difficile, hein, ça c'est sûr, c'est difficile. Mais si on la comprend, on se place tout de suite au-delà de toute philosophie de l'efficacité, de toute philosophie qui, au fond, reste au niveau des idéaux. Alors, c'est ça qui est important et intéressant pour notre intelligence, de saisir ce qu'il y a d'ultime. Oui, mon intelligence s'active dans ce qu'elle a de plus elle-même, plus par la découverte de l'être en acte et de l'être en puissance, que par l'affirmation, il est nécessaire qu'il existe un être premier. Parce que quand j'affirme, il est nécessaire qu'il existe un être premier, c'est une conclusion. Si c'est une conclusion, elle ne peut être découverte que par un levier de l'intelligence, puisque je ne saisis pas directement Dieu philosophiquement. Si je saisissais directement Dieu comme dans ma foi, alors je pourrais dire que ce qui actue de la manière ultime mon intelligence, c'est Dieu. Ça, c'est sûr. Ce qui actuera parfaitement mon intelligence et éternellement, c'est la vision de Dieu. Ce n'est pas la métaphysique de l'acte. Mais sur la terre, tant que je suis un chercheur, tant que je monte et que je cherche la vérité, qu'est-ce qui actue de la manière ultime mon intelligence? C'est la découverte de l'être en acte. C'est pour ça que c'est si important. Tout de suite, si mon intelligence saisit l'être en acte, elle acquiert une acuité, une pénétration toute nouvelle, toute spéciale et unique. Alors, c'est quand même quelque chose qui en vaut la peine. Toute ma philosophie est ordonnée à ça. Le regard critique présuppose ça. Et la découverte de l'existence de Dieu présuppose ça. C'est comme le grand levier. C'est pour soulever une grosse pierre, il faut un levier. Je n'arriverai pas autrement. Je ne peux pas faire autrement. Il faut un levier. Quel est le levier de l'intelligence? C'est lorsque l'intelligence découvre la primauté de l'être en acte sur la puissance. Alors, découvrant l'être en acte, premier par rapport à l'être en puissance, par là je soulève toutes les potentialités, tous les conditionnements qui sont en moi. Et je vois que la psychologie reste dans le conditionnement et jamais dans l'acte. Et donc je me libère de ce conditionnement effrayant de ma psychologie, qui est très lourd. Et je découvre ce qu'il y a d'ultime, l'être en acte. L'être en acte est au-delà de toute connaissance psychologique. C'est l'expérience dans toute sa force. Et c'est un dépassement de toute expérience. Donc c'est l'expérience qui est le point de départ. Et c'est le dépassement de toute expérience pour comprendre le sens de l'expérience. Une fois que je saisis l'être en acte, je comprends que l'expérience seule permet à mon intelligence d'avancer, de progresser. Je découvre cela. C'est ça l'importance et l'intérêt de cette découverte. Je vois que c'est cela qui est capital pour moi. C'est pour ça qu'il faut y revenir tout le temps. Une fois qu'on a saisi ça, on saisit tout le temps. On revient tout le temps. On réfléchit sur ce fait. Vous voyez, le passage de celui qui dort et qui est éveillé. De celui qui cherche et qui découvre la vérité, de celui qui aime et qui découvre la source de son amour, de celui qui est capable de voir et qui voit. Donc, celui qui est capable de voir, il est encore endormi. Celui qui est capable de construire et celui qui construit, il passe à l'acte. C'est, je crois, cela qui va être, voyez, le point de contact entre la psychologie et la métaphysique. C'est toute la métaphysique de l'être en acte et de l'être en puissance. En psychologie, vous restez dans le devenir. Vous êtes dans le devenir, votre conditionnement. Votre conditionnement, c'est toujours le devenir. Qu'est-ce qui donne à votre devenir sa signification? C'est l'être en acte. Et qui permet de le dépasser. Ah, vous voyez, le point de contact. Mais le psychologue ne pourra pas analyser ce que c'est que l'acte. Il comprendra que l'acte donne à toute la vie de l'homme sa signification. Ce n'est pas la psychologie qui donne à l'homme sa signification. C'est le dépassement de la psychologie. Puisqu'on saisit ce pourquoi on est fait. On saisit l'acte. Oui. Alors, au point de vue philosophique, au point de vue métaphysique, il y a un carême métaphysique. Et le carême métaphysique, pour nous, cette année-ci, puisque on est au pied d'œuvre, c'est le dépassement de l'être en puissance vers l'être en acte. Parce que votre intelligence, à ce moment-là, se délivre elle-même n'avez pas saisi ça, votre découverte de l'existence de Dieu repose sur les traditions religieuses ou sur la foi. C'est très bien. La foi me donne une entrée directe dans le mystère de Dieu. Les traditions religieuses me donnent une entrée vers l'existence de Dieu, qui est une attente. Je ne peux pas baser ma vie sur des traditions religieuses. Je peux baser ma vie sur la foi, mais pas sur les traditions religieuses. Mais baser ma vie sur la foi, c'est parfait pour moi personnellement. Mais vis-à-vis de ceux qui sont à côté de moi et qui n'ont pas la foi, je dois pouvoir les entraîner. Alors je peux les entraîner par un témoignage de foi. Je peux les entraîner en enlevant tous les obstacles, tout le conditionnement dans lequel ils se trouvent. Parce que quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas, c'est parce qu'il demeure dans son conditionnement. Quand on dit Dieu n'existe pas, on met l'homme à la place de Dieu. Mettre l'homme à la place de Dieu, c'est mettre l'être en puissance avant l'être en acte. C'est une terrible hérésie intellectuelle, puisque je mets ce qui est en puissance limité à la place de l'acte. C'est une corruption de l'intelligence. Et quand on a bien saisi ça, il y a une possibilité d'aider les autres. Parce que le monde d'aujourd'hui est un monde qui corrompt l'intelligence. Puisque c'est tout le temps la potentialité qui est première. Et la potentialité est tellement affirmée comme première que la plupart des hommes, ut in pluribus, demeurent dans ce conditionnement. Ce conditionnement conduit fatalement à l'angoisse. L'angoisse, c'est demeurer dans le conditionnement, sans vouloir en sortir, en ayant abdiqué. Oui, c'est justement là où on voit comment l'hygiène, au très grand sens de ma vie intellectuelle, c'est toujours de revenir à cette saisie du primat d'être en acte. Ayant découvert cela, au moins ayant saisi qu'il y a là quelque chose de capital, que c'est cela qui donne à toute ma vie intellectuelle sa signification, je peux tout de suite saisir les modalités de cet être en acte. C'est pas le conditionnement d'être en acte, il n'y a pas de conditionnement d'être en acte. Alors c'est ça qu'il faut bien saisir. Parce que modalité, je peux l'entendre comme un conditionnement. Mais modalité, au niveau de l'être en acte, n'est pas un conditionnement. C'est l'être en acte qui, pour moi, la métaphysique, c'est l'homme qui l'a fait. La métaphysique, c'est l'homme en recherche de vérité. Et dans cette recherche de vérité, l'être en acte se présente à moi tout de suite pour éclairer toutes les parties de la philosophie. J'éclaire immédiatement par l'être en acte ce que j'ai saisi antérieurement par la découverte de la substance. Quand j'ai découvert la substance, je me suis posé la question, comment la substance existe-t-elle pour moi ? Dès que je saisis un principe, la réponse à l'interrogation du dhisti, qu'est-ce que c'est ? Dès que j'ai saisi un principe propre, j'essaie de voir comment cela se réalise dans la réalité. Le comment de la substance, principe, le comment de la substance. Vous allez me dire, pour moi, ma substance c'est mon âme. C'est vrai. Pour moi, ma substance c'est mon âme. Ma substance c'est mon âme et mon âme est ma substance. Vous voyez, c'est le premier comment. Le premier pose de la substance, c'est, je pourrais dire, c'est le mode de la substance pour moi, c'est mon âme. Parce que c'est quelquefois plus facile de saisir son âme que de saisir sa substance. Normalement, c'est plus facile. Je découvre d'abord mon âme avant de découvrir la substance, génétiquement parlant. Mon âme, je peux en avoir presque une expérience. Quelqu'un d'assez spirituel, pas quelqu'un d'englouti dans le conditionnement, hein. Quelqu'un qui est englouti dans le conditionnement psychologique ne découvrira pas l'âme. L'âme échappe au psychologue. Mais celui qui veut justement aller le plus loin possible dans la lucidité de sa vie peut découvrir son intériorité. J'ai une intériorité qui m'est propre. Cette intériorité qui m'est propre, c'est ma vie spirituelle, ma recherche de la vérité. C'est la recherche de l'amour spirituel, de l'ami. J'ai une intériorité quand, dans l'amour d'amitié, je découvre l'ami. Mon âme, à ce moment-là, m'est donnée dans cette intériorité. Cette intériorité, ce n'est pas mon corps. Mon corps n'explique pas cette intériorité. Mon corps, il est trop pesant. Mon corps, il est trop quantifié. Il implique cette juxtaposition de toutes les parties de mon corps. Or, l'intériorité, c'est justement ce qui est au-delà de toute cette extériorité. Et donc, je peux aimer cette intériorité. Je peux aimer réfléchir sur mon intériorité de celui qui cherche la vérité, de celui qui veut aimer spirituellement. Dès qu'il y a un véritable amour spirituel, un amour d'amitié, il y a une intériorité. Et je commence à m'aimer parce que j'aime l'ami. C'est l'ami qui m'actue et qui me permet de m'aimer. Avant, je ne m'aime pas. Et donc, il n'y a pas d'intériorité spirituelle. Par l'amour d'amitié, il y a une découverte d'une intériorité spirituelle. Et c'est curieux, c'est l'ami qui me révèle mon âme, la présence de mon âme, la présence de quelque chose d'intérieur. Et quand vous dites celui-là, il n'a aucune intériorité. Et c'est vrai, tout le noviciat est fait pour découvrir son intériorité.
Je descends le fleuve. Et au bout
bout d'un certain temps, je m'endors. La potentialité substantielle, je dors. Mais c'est le repos. Il faut remonter à la source. Et tout le temps, l'effort de remonter à la source d'intériorité. Quand j'adore, j'intériorise. Quand j'aime, j'intériorise. Je suis présent à mon âme. C'est merveilleux la manière dont Plotin montre ça, parce que ça, c'est le philosophe qui donne une pédagogie de passer de l'extériorité à l'intériorité. Pour ça, les néoplatoniciens sont merveilleux. Pour Aristote, c'est déjà fait. Passé de Platon. Pendant 40 ans, il est grand temps d'entrer dans l'intériorité. Quand on a été 40 ans élève de Platon, bah oui, vite, vite, vite. Faut pas oublier. Donc pendant 40 ans, il a fait l'exercice du passage de l'extériorité à l'intériorité. Il a essayé de dépasser toutes les distractions pour essayer de saisir l'acte. Mon âme. C'est d'une certaine manière mon acte. Mon intériorité, ma présence. Et puis, subitement, dans la lumière de l'être en acte, je vois que mon âme individualisée, elle n'est pas son acte d'être. La substance individualisée en moi, qui est moi-même, mon individu, n'est pas acte au niveau substantiel. Mon âme subsiste. Elle subsiste dans cette individualité. Mais elle n'est pas son essai, son exister. Là, je saisis la différence qui existe entre l'âme et la substance métaphysique. Et je saisis que mon âme, si elle m'est donnée dans cette présence spirituelle, cependant, mon âme n'est pas l'être en acte. Dans les ténèbres. matériel. C'est tout ce qui en moi n'a pas été digéré, assimilé, actué. C'est extraordinaire de voir combien je suis dans la distraction. Et combien il y a peu de finalité dans ma journée. Je découvre, là, avec netteté, que mon âme individualisée, ma substance, n'est pas mon exister. Vous voyez, mais c'est la substance individualisée. Je découvre que la substance réclame l'essai. Elle demande de subsister. Mais elle ne subsiste pas par elle-même. L'essai est son acte. Et ce passage si important de découvrir que, de fait, l'essai, c'est l'acte de la substance. C'est l'acte de la substance. C'est l'acte substantiel dans l'ordre de l'être. C'est l'acte radical dans l'ordre de l'être. Et que la substance, ma substance, mon individualité n'est pas l'acte d'être. N'existe pas par elle-même. Mon essai m'échappe. Et c'est vrai, mon essai m'échappe. À la fois, je le possède, c'est mon acte, mais en même temps, je ne le domine pas. Je suis dominé par lui. C'est lui qui m'actue. Vous voyez, là il y a un point très délicat et très intéressant à préciser. Ai-je l'expérience de laisser participer? Quand je dis ça, vous allez me dire tout de suite, ah mais donc, vous avez l'expérience de laisser participer. Est-ce que quand je me regarde dans mon individualité, dans ce qu'il y a en moi de tout à fait substantiel, mon âme présente à mon corps, mon âme qui informe mon corps, est-ce que je ne suis pas en présence de laisser participer? Si je suis en présence de laisser participer, c'est merveilleux, parce que je peux poser tout de suite l'existence de Dieu. Cet laisser participer dépend d'un autre. Il est relatif à un autre. Et donc, s'il est relatif à un autre, de fait, c'est cet autre qui est premier et laissé participer. Et second. Alors, il faut bien saisir, hein, parce que c'est là le point important qui me sépare du néoplatonisme et qui me sépare du néoplatonisme grâce à la saisie de l'être en acte. Le néoplatonisme ne saisit pas l'être en acte. Et donc, je demeure dans laisser participer. je reviens à cette petite analyse de l'intériorité de mon âme. C'est quand même intéressant. J'ai cette intériorité dans mon individualité. Je suis un être quand même qui réfléchit, capable d'aimer, qui aime. J'ai donc la possibilité de me dépasser. Mon corps est là, pesant. Je ne peux pas en sortir. Et cependant, je le dépasse. Intentionnellement. Par la recherche de la vérité, par la recherche de l'amour. Mais je sais que ce dépassement, il n'est qu'intentionnel. Il n'est pas substantiel. Mon âme, ma substance, mon intériorité dans son immanence, première, radicale, substantielle et limitée. À côté de moi, il y a un individu qui a autant de droits que moi d'exister et qui existe aussi et qui est autre que moi. Je saisis donc là ma limite dans l'ordre substantiel. Je saisis ma limite dans l'ordre substantiel. Et cette limite que je saisis dans l'ordre substantiel, je la saisis justement dans ma corporéité. Mon corps saisit à partir de l'âme. Et dans cette intériorité de l'âme est la limite de mon intériorité. Et la limite de autonomie substantielle. Et je peux immédiatement dire que cette limite substantielle de mon individualité n'est pas l'exister, puisque il limite mon exister. Et que l'être en acte comme tel n'implique pas de limite. Et c'est la limite de mon essai. C'est pas laisser participer, mais c'est la limite de mon essai que je saisis. Et cette limite de mon essai montre que mon essai, mon acte d'exister n'est pas identique à ma substance, qu'il est autre que ma substance, distinct de ma substance, et qu'il actue ma substance. C'est du reste pour ça que la découverte de la substance ne me dit pas tout mon être, me dit ce que je suis substantiellement, c'est-à-dire fondamentalement, c'est-à-dire en premier lieu, mais ne me dit pas mon être en acte. Il a fallu toute une induction pour découvrir l'être en acte qui n'est pas la substance. Et concrètement, ma substance individuelle, qui est mon âme, informant mon corps. Cette substance individuelle qui est mon âme informant mon corps est limitée d'une façon tangible et n'est pas mon exister. Mon exister est autre que ma substance individuelle. Mon âme informant mon corps. Je peux donc saisir à ce niveau cette distinction ma substance. C'est peut-être cela qu'il faudrait dire tout de suite quand je regarde cette première modalité de l'être en acte et d'être en puissance. Je devrais dire mon exister et ma substance, ou l'exister et ma substance. La substance individuelle, c'est ma substance individuelle qui est en puissance à exister, qui existe par l'être en acte. Et l'être en acte, c'est mon exister, c'est l'exister. Il faut dire les deux. Donc voyez, l'application première, ou la découverte, si vous voulez, première de cette distinction de l'être en acte et d'être en puissance par rapport à mon âme. Mon âme n'est pas mon exister. Mon âme est source de mon exister au plan des déterminations, mais n'est pas mon exister qu'est l'être en acte pour moi. Et l'être en acte pour moi n'est pas mon âme. Mon âme demande de subsister. Et voyez comme c'est important, parce que ça fait comprendre comment mon exister, il est unique, c'est celui de mon âme et de mon corps. Mon âme n'est pas mon corps, mais mon exister, il est dans mon corps, comme dans mon âme. L'exister fait l'unité substantielle en acte de mon âme et de mon corps. C'est pour ça que l'exister, mon exister, est quelque chose de plus radical que mon âme. Mon âme est toujours distincte de mon corps. Mon âme n'est pas mon corps. Tandis que mon exister, c'est mon âme et mon corps. Est-ce que votre exister est plus dans votre âme, dans votre corps? Vous me direz, mon exister est d'abord dans mon âme et dans mon corps, mais c'est le même exister. Vous n'avez pas deux exister, celui de votre corps et celui de votre âme, vous n'avez qu'un seul. C'est pour ça que la mort qui sépare l'âme et le corps est une chose si terrible, parce que c'est une brisure dans l'essai.